Le 4 mars 2017 se tenait à Toulouse la 5e édition du festival Polaré. Carte blanche laissée par Mixar Miris à Thomas Bigot, directeur artistique et principal moteur de l'événement. Depuis 2013, artistes plasticiens, performeurs et musiciens redéfinissent à cette occasion les frontières de l'art sonore. Rencontre avec Pali Morceau en résidence à Mixar Miris dans le cadre d'un projet sonore autour du data center de Theta Neutral et de la présentation de sa performance Fields programmée dans le festival Polaré. Artiste, compositeur et fondateur du label Univers International, Pali Morceau poursuit également un travail de recherche sur la musique électroacoustique, l'environnement sonore ou la création radiophonique.
Pali Morceau ?
Oui.
Je suis Christophe Giffin.
Pas ton installation là.
Non,
du tout.
Moi, je joue après dans la salle sur le côté.
Ok. C'est la porte qui est fermée.
Ouais. Et justement, on voulait savoir si toi tu voulais faire une petite interview. Si tu te...
Allez, si vous voulez.
Ouais.
Bah, faudrait aller derrière.
Ouais.
Parce que là, c'est un peu.
Ouais, il y a la cendrée si tu...
Le point, installé dans les coulisses, autour d'une bière belge et de quelques cigarettes roulées.
Alors nous on s'est calé sur cet événement il y a à peu près 2 mois, quand on a vu le flyer, ton nom est apparu. On a fait quelques recherches et dernièrement on a trouvé pas mal de trucs. La page nocturne, Campus, Paris.
Ouais, à propos d'un disque assez récent. Ouais.
Voilà, sur un travail autour de l'imprimerie.
Ouais.
Il y avait également une vidéo sur YouTube qui fait 1 minute 20.
Ah, qui était un truc du GRM, un peu plus ancien peut-être. Avec une interview où je suis collé contre un mur.
Ouais, et puis après des plans fixes de haut-parleurs divers.
Ouais, ils aiment bien filmer leurs haut-parleurs GRM, ils en sont très fiers.
Dans quel cadre tu t'es retrouvé là-bas, toi ?
En fait, c'est donc François Bonnet qui est le nouveau directeur artistique du GRM qui a remplacé Christian Zanesi il y a un an et demi. Qui est venu me chercher après avoir écouté un disque qui s'appelle Offset, qui était déjà avec des enregistrements de machines d'imprimerie et de choses industrielles, avec une approche à la fois field recording et électroacoustique. Et François Bonnet, c'est quelqu'un qui est assez ouvert à des formes un petit peu nouvelles. Bon, c'est pas la révolution GRM, mais il s'intéresse quand même à des formes qui changent un peu de l'électroacoustique, un peu plus académique, quoi. Et du coup, c'est lui qui est venu me chercher pour passer très officiellement une commande d'œuvre. Ce travail que j'ai fait après, qui s'appelle Mécane, où là, c'était de la typographie, pas de l'imprimerie, mais à peu près avec les mêmes machines, enfin, du coup, toujours des enregistrements de mécanique, etc.
L'écriture de tes projets est toujours un préalable à ce que tu vas faire, ou parfois...
Mes projets sont toujours liés à des lieux et au travail de prise de son que je peux faire dans ces lieux. J'utilise beaucoup le field recording ou la prise de son sans faire des choses qu'esthétiquement j'appelle du field recording parce que ça m'intéresse pas forcément, mais les méthodes de travail. Je viens des arts plastiques, je me suis mis à faire du son en sachant jouer d'aucun instrument et du coup les micros c'était une manière pour moi de générer des matières sonores que je pouvais retravailler ensuite. Je me suis mis à faire du son avec des micros parce que je savais pas jouer de la guitare, quoi. Et du coup, y a certains de mes projets qui ont été liés plutôt à des espaces environnementaux, naturels, beaucoup qui ont été liés à des espaces urbains ou industriels. Et par exemple, ici, je suis venu là, pendant Polare, je présente un autre projet, mais au départ, j'avais pris contact avec Theta Neutral et Theta Lab pour en faire des enregistrements dans leur data center, puisque c'est un projet que j'ai en cours en ce moment avec le label ArtKillArt. Bah, je voyage pour aller dans différents data centers de différentes tailles pour faire des prises de son à la fois micro normaux, micro contact, capteurs électromagnétiques, etc.
Quels sont les genres de sons qu'on peut avoir dans un data center?
Il y a beaucoup de ventilateurs et de climatisation. Chez Theta Neutral, il n'y a pas de climatisation parce que c'est un petit lieu un petit peu artisanal. C'est une pièce à l'étage où il y a une vingtaine de vieux ordinateurs qui ont été reconvertis en serveurs. Donc il y a tous les ventilateurs qui tournent, donc il y a sculpture de bruit blanc que je capte avec des couples stéréo classiques, quoi. Et puis après, il y a toutes les vibrations des machines que j'ai captées avec des micro-contacts et surtout les flux de données, en fait, l'activité des disques durs, des cartes graphiques, etc., des cartes réseau avec des bobines électromagnétiques. Donc c'est des petites bobines inductances qui font antenne et qui sonifient, en fait, le flux de data qui se promène là-dedans, quoi.
On est toujours dans du multicanal.
Là, pour le moment, c'est le début du projet. C'est de l'accumulation de matière, donc j'ai enregistré avec une table de mixage, avec plein de capteurs qui étaient branchés dedans en même temps, avec un couple stéréo, plus des micro-contacts, etc. Donc je me suis amusé un peu à jouer les prises. Si je me retrouve dans des endroits un peu plus industriels, surtout dans les data centers, c'est un peu le gros problème, c'est des espaces qui sont très sécurisés, très fliqués, etc. Donc c'est pas toujours facile d'accès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, des fois, c'est juste une prise de son stéréo en se déplaçant, des trucs comme ça, quand c'est possible de rentrer, quoi. Donc il va y avoir plein de statuts différents de sons dans ce projet. Mais c'est vrai que, a priori, l'ambiance sonore d'un data center, c'est des sons qui sont un peu moins excitants que ce qui peut se passer dans des forges ou des vieilles machines d'imprimerie avec tout ce truc mécanique. Et en même temps, pour moi, c'était aussi un petit peu une manière de me confronter à ce paysage sonore industriel très contemporain. À la fois pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant, quelque chose à en faire, qui soit moins déjà formaté par cette espèce de poésie mécaniste qui a vachement influencé toute la musique du XXe siècle, qui est en plus quelque chose de très mal connu, parce que les data centers, c'est des espaces qui sont cachés, on ne sait pas trop où ils sont, on ne peut pas y accéder, etc. Voilà, c'est, pour le moment, c'est une sorte d'enquête sonore, et ça n'en est pas encore au travail de composition. L'intérêt que j'ai pour les environnements sonores, urbains ou industriels, etc., c'est un peu ce truc de dire qu'il y a des manières d'écouter, des manières de chercher des sons, même dans des endroits complètement délaissés ou dans des trucs qu'on ne prendrait pas le temps d'écouter, des sons qui ne sont pas spécialement beaux. Il y a tout ce truc dans le field recording qui vient de Murray Schafer, etc., où c'est le paysage naturel, c'est quelque chose de beau et de riche, etc., et le paysage industriel, c'est quelque chose de pauvre, de négatif, etc. Mais du coup, moi, en prenant le truc un peu à rebours, ça m'intéresse toujours d'aller voir dans les pollutions sonores, en fait. Dans le processus industriel, le son, c'est toujours un produit dérivé, en fait. C'est pas le but, mais ça en produit plein, du son. Donc c'est des formes de pollution, de choses qu'on calfeutre plus ou moins, mais où il se passe des trucs qui, moi, m'intéressent. Et en tout cas, où je me dis toujours que si on arrive à l'écouter de la bonne manière, à poser le micro au bon endroit, on peut révéler quelque chose qui a à la fois plein de sens, et plein de sens au pluriel, complexe, c'est-à-dire des choses extrêmement négatives, extrêmement positives, et de trouver à l'intérieur des actes de résistance qui sont dans l'écoute, dans des manières de faire, dans des endroits où aller. Parmi les premiers boulots que j'avais fait en prise de son industrielle, comme ça, c'est des usines où je suis rentré de manière illégale, en fait, en passant par-dessus des clôtures et en allant foutre des micros dans des trucs. Donc il y avait vraiment ce truc de qui est assez présent dans mon boulot, d'aller écouter des choses qu'on n'est pas censé entendre, en fait. Et du coup, bah, voilà, les data centers, ça rejoue un petit peu tout ce truc-là, quoi. Le but n'est pas de rendre beau des choses qui sont négatives, mais d'essayer de se dire que pour comprendre quelque chose, il faut aller l'écouter de près, quoi, et que ça révèle des choses. Et après, bah, de la même manière que dans tout le truc industriel, mécanique, entre les futuristes jusqu'à la techno, il y a cette espèce de tension entre la machine qui est destructrice et puis la fascination et la beauté aussi qui peut en émerger. Donc c'est des formes de réappropriation qui me paraissent aussi intéressantes. Du coup, j'ai une curiosité pour ce paysage sonore des data centers. Je ne sais pas a priori s'il est intéressant. Enfin, ce n'est pas un truc qui va dans le sens du poil, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, c'est marrant, je ne connais pas de boulot sonore sur ces environnements-là. A priori, ils sont assez pauvres. Comment on peut les approcher ? C'est une espèce de défi comme ça. Donc, c'est pour ça que je parlais d'enquête sonore pour le moment, c'en est à ce stade-là, quoi.
Peut-être pas encore alors une idée du format final, quelle sera la forme
Il y aura peut-être plusieurs formats, et puis il y a un lien, ce projet il est un peu co-construit avec le label Art Kill Art, qui est un label qui édite des cassettes, des vinyles, des projets un peu hybrides, comme ça, donc il y aurait sans doute, au bout du compte, un projet de disque, une édition, dont je connais pas encore la forme.
Je vais sans doute écorcher le nom de ton label, c'est International Subliminal ou...
Non, c'est Univers International. C'était une blague, ce label, je l'ai commencé avec un pote au début des années 2000, avec l'idée de sortir que des mini-CD. C'était un format que je trouvais super intéressant à l'époque, il y avait 20 minutes d'audio sur un petit disque. Et je trouvais que ça se prêtait très bien à des formes expérimentales. Et du coup, c'était des mini-CDR à 100 exemplaires et les fichiers mis en libre sur Internet, qui étaient... c'était un peu l'époque du tout début des netlabels, etc. Le label a sorti qu'une vingtaine de références en 15 ans, ce qui n'est pas énorme. Et puis là, maintenant, j'ai un petit peu abandonné le CD. C'est des formes un petit peu différents, des coéditions avec d'autres labels. Et du coup, Univers International, c'était un petit peu une blague. Au début, on voulait faire un design où c'était marqué Universal, et quand on déplie, c'était Univers International. Mais finalement, on n'a jamais fait le... ce qui était une blague assez lourde, mais du coup, le nom est resté.
Et pour Art Kill Art ?
Ouais.
C'est plutôt eux qui t'ont contacté parce que...
En fait, c'est des gens qui sont à Paris. Parmi les gens de Art Kill Art, il y en a qui participent et qui même drive un collectif de radio expérimental qui s'appelle Pinode. Moi, j'ai bossé un petit peu avec eux sur un ou deux projets. Et puis, c'est des gens qui sont plus forts que moi en art numérique et dans toute la dimension plus informatique, etc. Et du coup, comme j'avais quelques idées en tête autour de ces histoires de data center, de formes d'installation, etc., je leur ai posé quelques questions petit à petit en discutant. Mais voilà, c'est un tout début d'embryon de projet. Il n'y a encore absolument rien de décidé.
globalement, quand tu commences quelque chose, tu fonctionnes sur du budget ou c'est quelque chose qui vient de toi et tu te dis je vais essayer d'en faire quelque chose plus tard? Comment, quels sont tes modes de fonctionnement?
Bah, c'est très divers en fait. Pour Mécan, c'était une commande du GRM, ce qui est 2 mois de boulot avec une bourse de 2 500 €. Et à la fois, ça peut paraître peu parce que c'est beaucoup de travail. En même temps, moi, toute ma vie, j'ai créé sans thune. Et puis après, t'essayes de tourner avec ou de faire un disque. Et en général, quand tu fais des disques, tu perds plus d'argent que t'en gagnes. Mais, donc enfin, voilà, après, moi, mon économie personnelle, elle est aussi faite. Je suis aussi preneur de son, j'ai son à côté. Je fais aussi du sound design, des choses comme ça. Enfin, du coup, c'est fait de plein de situations différentes, en fait. Il n'y a pas du tout de règles. Mais c'est extrêmement rare d'avoir un budget avant de commencer à travailler, quoi. En général, ça se construit petit à petit.
Ce soir, là, c'était plutôt dans le cadre d'un événement orienté vers la musique électronique, piste ouais. de danse. C'est fréquent ou c'est...
Écoute, moi, je suis jamais venu à Mixar Miris avant aujourd'hui, enfin, avant cette semaine. J'ai découvert la programmation après avoir été programmé. Donc, mais enfin, voilà, ça me dérange pas du tout. En plus, là, ce que je te présente ce soir, c'est un travail électroacoustique, mais il y a une dimension assez électronique aussi, puisque je joue avec des champs électromagnétiques. Donc ça génère des sons qui peuvent être assez synthétiques et assez glitch. Enfin voilà, je pense que la proposition a sa place à cet endroit-là aussi.
Tu peux la décrire un peu, l'installation ?
Alors là, c'est un autre projet qui est la rencontre d'un travail d'enregistrement plutôt naturaliste. Là, c'est des enregistrements d'insectes. Il y a une couche composée des bandes-sons que je diffuse qui ont été créées à partir d'enregistrements d'insectes. Une improvisation qui vient se mélanger à ça, avec une sorte d'instrument que j'ai construit avec des néons sur variateurs, donc des néons qui clignotent, qui déconnent, etc. Sur lesquels il y a des bobines électromagnétiques qui captent et qui transforment en son les champs électromagnétiques qui sont générés par les néons. Et ensuite, ça passe dans des filtres analogiques, etc. Et du coup, entre les insectes et les champs électromagnétiques, il y a des moments où les sons sont extrêmement proches, on ne sait plus trop qui fait quoi. Et puis il y a d'autres moments où c'est très différent. Donc voilà, après c'est une écriture sonore où je m'amuse de ce mélange. Donc voilà. Donc c'est une forme qui est à la fois assez fixée dans sa durée, parce qu'il y a des bandes son, etc., et qui est complètement improvisée après avec le dispositif. Et puis du coup ça fait de la lumière et on se la prend dans la gueule. Donc ça va entre le noir complet et le flicker. Voilà.
Il y a
une dimension ouais, visuelle et synesthésique d'une certaine manière. Ouais.
Les gens sont invités à être là depuis le début et de rester jusqu'à la fin.
C'est ouais, une ambulation. On va voir, parce que là, comme c'est entre le vernissage de l'expo et puis les concerts qu'il va y avoir après, effectivement, c'est un cadre plus musique électronique, etc. Donc il n'y a pas la solennité ou l'élitisme qu'il y aurait eu naturellement dans une programmation plus orientée électroacoustique. Donc on verra bien comment les gens réagissent. Là, c'est plus prévu pour qu'ils s'installent et ça se présente vraiment comme une forme concert avec un début, un développement, etc. Mais on verra si les gens le prennent comme un espace un peu plus de déambulation. Ça, je pense que ça sera intéressant aussi.
Ça ne dérange pas forcément que
en tout cas, je me lèverai pas pour aller chercher. Bon, cela dit, il y a des phases qui sont assez calmes, donc j'espère que les gens vont avoir envie un petit peu de s'installer dedans plutôt que de se mettre au milieu de discuter en picolant, parce que ce serait un peu contradictoire. Mais normalement, ça doit être le travail qui génère l'envie de se poser, quoi.
C'est toi qui as déplacé tout le matériel ou tu t'es installé ici? Enfin, t'es venu avec tes néons?
Ouais, je suis venu avec mes néons en train, c'était très chiant.
des filtres, des pédales?
Ouais, voilà, il y a une petite série de filtres. C'est pas un dispositif énorme, mais à trimballer tout seul, plus le matos d'enregistrement pour aller enregistrer chez Theta, c'était un petit peu compliqué. C'était un peu le crash test, du coup, j'ai vu que je pouvais me déplacer de manière autonome avec ce dispositif-là, c'est ce qui est déjà une bonne chose.
Pour revenir sur Theta Neutral, tu les as trouvés comment ?
Je les ai trouvés comment ? C'est Viart, Killart, en fait, qui les connaissait parce qu'ils sont venus au THSF ici l'année dernière. Ouais. Puis que voilà, Theta est un petit peu dans ce réseau hacker, etc. Du coup, la prise de contact, c'était Viart, Killart.
Tu veux parler un tout petit peu matériel, là, genre 2-3 minutes ?
Matériel ?
Ouais. Tu travailles avec quoi ? T'as un parc à micro impressionnant ou t'as juste des trucs...
Alors, oui, j'ai un parc à micro impressionnant parce que je travaille aussi comme ingé son, comme preneur de son pour du cinéma, etc. Et que c'est un métier où, pour lequel j'ai dû m'équiper petit à petit.
Mais la contrainte et les exigences, ou c'est
ouais, après ou... ouais, de toute façon, pour comprendre la technique et ouais. Il faut aimer ça, et du coup ouais, enfin il y a un côté un peu geek du matos de prise de son, mais qui fait aussi que, enfin, j'utilise autant des micros très chers que des piezo que je peux brûler s'il le faut, donc enfin j'ai vraiment aucun a priori technique. Ça m'arrive de bosser avec du matériel très très divers selon les possibilités et ce qu'il y a enregistré, quoi.
Un terme d'enregistreur, alors, justement,
tu veux vraiment que je cite des marques ?
Ou pas, si tu veux. Parce qu'il y en a autant qui travaillent sur de la bande magnétique encore, à ce stade,
ouais, non.
Qui aiment bien justement.
Non, moi je travaille pas sur de la bande magnétique, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font encore, surtout pour leur lombaire. Mais non, moi je travaille avec des enregistreurs numériques récents, costauds, de bonne qualité, et des petits zooms aussi, ou des trucs comme ça quand il le faut. Je viens de, comme je te disais tout à l'heure, je viens des arts plastiques et je me suis mis au son parce que j'ai découvert les ordinateurs. Et si on m'avait montré un Revox à l'époque, j'aurais trouvé ça fascinant, mais je me serais dit que c'était pas pour moi, que c'était trop compliqué. Je pense que, je fais partie de la génération pour qui l'informatique, qui devenait tout à coup un peu plus performante, ça a été assez libérateur, quoi. Je suis pas un partisan aveugle du numérique. Je suis pas non plus un fan du matos analogique et des amplis à lampe. Mais il y a des mérites des deux côtés. Et il faut savoir pourquoi on les utilise et comment on les utilise, quoi. Enfin, en tout cas, clairement, les petits enregistreurs à pas cher et les ordinateurs, moi, c'est ce qui m'a permis de me dire que je pouvais travailler le son, quoi.
Allez, juste une adresse internet pour terminer, on peut voir ton travail quelque part.
Ouais, sur mon site internet qui est palimeursault.net, palimeursault.
C'était Polaré invite Palimeursault. captation sonore et entretien radiophonique opéré par François Perchenko, sur invitation de Christophe Giffard et Thomas Bigot, avec la participation de Pali Meursault. Sont réalisés durant la 5e édition du festival Polaré, le samedi 4 mars 2017 à Toulouse, à l'espace Mixart Miris, collectif d'artistes autogérés, pour la série Starting Block diffusée sur le réseau national des Radio Campus. Générique de fin, Marie-Amélie Giammarchi. Podcast, mixcloud.com, musique, moderne, radio.